Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast avec nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme. Ugolf Blue Green, Callaway et Garmin. Bon golf, bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Au sommaire de ce 14e numéro de la saison, Bryson DeChambeau est méconnaissable en majeur cette saison. Deux tournois, deux cuts manqués, le bison qui a affirmé qu'en cas de disparition du livre, il allait se consacrer prioritairement à sa chaîne YouTube. Est-on en train de perdre Bryson DeChambeau? C'est la question du jour. Le mulligan, vous avez tous choisi une thématique qui vous tient à cœur. On en débat dans la deuxième partie de ce podcast. Et puis, sachez que nous sommes à mi-saison, je vous l'ai promis. J'ai un petit quiz sur les stats. C'est pas facile, c'est pas cadeau. Il y a des points, il y a des récompenses. Peut-être faire une partie de golf avec moi. C'est peut-être ça la récompense.
Et bon, vous savez quoi, moi j'y vais les gars.
Reste, tu vas voir, on va se marrer quand même. La Dream Team aujourd'hui, vous l'avez reconnu, Fabien Donoyan, Ugolf Blue Green, notre prof de golf, Ramucho Artola, Golf Blue Green de Pessac, Romain Fontaine de Garmin et nos éditorialistes Simon Dutin, Martin Coulon. Salut à tous.
Salut les gars.
Hello. Salut les gars, salut JC.
Salut tout le monde.
Ça va, vous êtes en forme, ça va mieux le mollet Simon?
Oui, doucement.
Okay. Hein. On rejoue quand ensemble?
Je sais pas, mais moi quand ça allait bien, tu voulais plus jouer avec moi, donc je comprends pas.
Ah, mais comme disait Fabien dans le précédent numéro, hein, on a tous un boulot. Hein.
Et le mais bien j'ai joué avec Fabien récemment, il m'a ouvert les portes d'une partie à Lyon, c'est bien marré. Hein.
Ouais, il est bon?
Et il est toujours. Et c'est un mix. Alors moi, il est très bon, mais il me fascine au putting. Ce salopio, ouais.
Ah, moi, c'est au drive. Quoi. Je trouve qu'il a une frappe.
Et il a
de
failli faire. Et alors, on jouait en scramble tous les deux. On a, mais alors, déboîté le parcours de Roissy. Ça, sur 9 trous, hein, quand même. Je sais plus combien on a envoyé. Et on a filmé un truc. Il a failli nous faire, mais alors une séquence légendaire hein, qu'on aurait pu.
Vas-y.
Un putt pour eagle à 5 ou 6 mètres. Et on a tous vu la balle rentrer, et du coup, il passe devant la caméra, style ciao les gars, je m'en vais et tout.
Et la
balle n'est pas rentrée. Alors, ça aurait pu être légendaire. Un peu comme Max Thomas à Rome, tu sais,
ouais,
qui rentre son chip et qui enlève la casquette avant que la balle rentre.
Le mec a voulu frimer, et en fait,
il ne faut pas toujours flop.
Magnifique. Mais tout ça pour dire que. Il drive très loin, mais c'est un excellentissime putter, Fabien.
Ok. Voilà. Il t'a donné un peu de fric pour dire tout ça à l'antenne ou pas?
Pas du tout, mais il me donne souvent des conseils. Quand il ne met pas la tête sous l'eau, quand je joue mal, il me donne de très bons conseils.
Voilà. Okay, je suis meilleur chambreur que golfeur. Hein.
Oui, c'est vrai, mais tu es très bon au golf. Ce qui veut dire que tu es aussi très bon en chambre. Allez, tout de suite, Bryson DeChambeau.
Allez, c'est parti. Beaucoup de cœur. Beaucoup de portée de balle, oh c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est incroyable, ce qu'a fait Bryson DeChambeau, c'est juste magistral. Bryson DeChambeau écrit son histoire et remporte son deuxième majeur, ce garçon a du cœur, ce garçon est incroyable, ce garçon est fait pour être aimé par l'Amérique.
Le Practice RMC.
Ah, que cette victoire à l'US Open semble loin pour Bryson DeChambeau. C'était en 2024, il décrochait alors son deuxième majeur en carrière. Il est toujours bloqué à 2. Cette année 2026 débute mal pour lui en majeur. Plus 6 à Augusta, il n'a pas passé le cut. Plus 7 à l'USPGA la semaine dernière, il n'a pas non plus passé le cut. Sur le livre, ses prestations sont plutôt bonnes, voire très bonnes. 2 victoires déjà depuis le début de la saison. Mais c'est évidemment en coulisses que tout est en train de se jouer. Le livre est en sursis, vous le savez. Le bison pourrait avoir des envies d'ailleurs. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. J'adorerais faire plein de doublages dans différentes langues pour donner au monde encore plus de raisons de regarder YouTube. Et puis, j'adorerais comme ça participer à des tournois où l'on me sollicite. Bryson DeChambeau est-il en train de se perdre? Vous en pensez quoi? Je vais aller voir Martin Coulon tout de suite sur cette question.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'à court terme, oui, mais que si tu raisonnes uniquement à court terme avec ce joueur-là, tu rates ce qu'il est en fait. À court terme, clairement, oui,
je prends un papier et un crayon.
Oui, tu peux. Clairement, à court terme, il est en pleine tempête. Enfin, je veux dire, le gars, t'avais juste à le voir au practice du PGA. Il est perdu de recherche. Enfin, je veux dire, il cherche tout. Il cherche son driving, il cherche son jeu de fer, il cherche son wedging, il cherche son putting. Son petit jeu, c'est une catastrophe ambulante depuis Augusta. Mais il traîne une blessure depuis la Ryder Cup, au poignet, à l'épaule. Et puis le livre, c'est incertain, et lui, l'incertitude, il aime pas ça. Donc il est dans un moment de, il est en tempête, ce bonhomme-là. Il est vraiment dedans, tu vois. Il se prend des vagues en plein dans la tronche. Il parle plus à la presse, il parle plus à personne. Il rate des queues dans tous les sens. Mais, faut pas oublier que depuis son passage sur le livre, il y a 14 majeurs, il y a une victoire, 8 top 10, dont 2 fois deuxième, quoi. Et que 2025, c'était 5e au Masters, 2e du PGA, cut à l'US et 10e de The Open. Donc, on parle quand même d'un bonhomme. Ok, là, il y a 2 tournois de suite majeurs où il rate le cut vraiment dégueulasse. Enfin, le triple à Augusta qui prend sur le 18 le dernier, enfin, le deuxième jour, c'est t'as envie de crever. Les allers-retours qu'il fait dans d'un bunker à l'autre ou pas loin au PGA, le deuxième tour, t'as envie de crever. Mais au-delà de ces résultats à la comptable de court terme, c'est pas si catastrophique que ça, quoi.
Peut-être pas si catastrophique que ça, mais ce qu'on se dit en ce moment, c'est que je trouve qu'il caractérise la chute du livre. Peut-être j'essaye de m'exprimer bien.
Excusez-moi, on m'appelle, c'est une émission philosophique ou
culturelle? Pardon, oui, c'est
ça. Essayer de m'adapter.
Exactement. Oui, tu vas voir, ça va bien se passer. Moi aussi, ça m'a fait bizarre la première fois. En fait, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le départ du livre, en tout cas qui est le départ du PIF, et donc le livre est incertain, on ne parle que de lui.
Mais c'était la figure tutélaire du livre.
Non, mais
c'était l'une des grosses figures tutélaires.
Il y a eu Rahm, on sent que Rahm, bon, ils vont pouvoir s'arranger si jamais il veut revenir et tout ça. On sent que lui, ça cristallise toutes les tensions. Lui, en gros, il ne serait pas forcément d'accord avec l'arrêt du livre, donc il a plutôt envie de se dire, ok, s'il n'y a pas le livre, ben moi je vais faire des vidéos YouTube. C'est très rapidement
résumé, ouais.
Résumé, mais c'est la sensation que ça donne.
Ouais, enfin, il y a quand même, je pense que vous l'avez, mais je vais le répéter. Quand Bryson est arrivé sur le livre, il a négocié le fait d'avoir une chaîne YouTube. Et le livre lui a répondu, attends, nous on gère les droits de tous les joueurs, comme ça c'est en Formule 1. Et ça a toujours été un peu un sujet conflictuel avec le livre, parce qu'il a dit, je joue sur le livre, mais j'ai mes trucs sur YouTube, je veux
les pousser, les
développer, les développer, merci. Et eux n'étaient pas trop d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je te rejoins, on ne peut pas perdre un joueur comme DeChambeau, fond de jeu, niveau de jeu beaucoup trop important pour à un moment donné pas aller nous planter encore un majeur cette année. Donc, le joueur, on ne l'a pas perdu. Et je pense qu'il est peut-être beaucoup plus fragile, et tu l'as dit, aux tractations qui se passent en ce moment. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un but, d'un avenir, et que là, il ne sait pas où il va aller.
Déteste l'incertitude.
Bah, non, mais
déteste ne pas contrôler.
Voilà,
il déteste ça.
Oui, mais exactement. Vas-y, je te laisse.
Non. C'est simplement, je vois pas pourquoi ce mec-là, qui était en 25, énorme, qui a fait une Ryder Cup aussi, énorme, qui a fait, tout d'un coup, il joue sur le livre parfait, et là, t'as l'impression qu'il est moins dedans, mais il est peut-être moins dedans parce que, et puis, pardon, il a peut-être d'autres problèmes qu'on connaît absolument pas, et il y a peut-être des problèmes de cœur. Hein.
Oui, alors je pense que le livre, lui, il n'y est pas allé pour le chèque, il y est allé aussi pour, en effet, la liberté que ça lui laissait.
Il est allé aussi un peu pour le chèque, oui, rappelle-moi son nom.
Je pense que personne.
Yassir Al-Romayan.
Ah, excellent. Personne ne l'a refusé, mais l'argent. Mais je pense qu'il y est allé, en effet, pour ne plus être contraint par le calendrier du PGA, ne pas passer 4 jours par semaine pour, voilà, et donc se dégager du temps. Un petit peu comme un Cam Smith, sauf que lui, c'est pour aller pêcher avec ses copains en Australie. Donc pour la liberté que ça lui offrait par rapport à un planning qu'il trouvait contraignant. La question, c'est de savoir perdu pourquoi pour le golf de haut niveau tel qu'on l'entend en ce moment, ou perdu dans sa vie, dans sa quête de... Bon, je pense que de toute façon, il a un problème de surmoi à régler, ce garçon, et qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Beaucoup de choses à raconter, mais ça, on s'en fout, c'est son problème. Ce que je veux dire, c'est que s'il veut... Tu vois, on parle souvent « to grow the game », faire grandir le jeu. Alors, pas forcément le faire grandir, mais diversifier son approche et la moderniser. Il s'adresse à un public et il va toucher un public qui ne regarde certainement pas les dimanches du PGA. Et à ce titre-là, bon, c'est une réussite. S'il préfère, je pense que en revanche, ce qui va être difficile, c'est continuer à développer sa vie numérique et sa popularité sur YouTube notamment, tout en continuant à garnir la cheminée de trophées.
Mais il y arrivait quand même.
Il y arrivait. Justement, la question, on la pose cette saison, on la posait pas l'an dernier, parce que t'as l'impression quand même que son YouTube là, ça vire un petit peu à l'obsession. À côté de ça, Martin a souligné, bon, il est cuté deux fois pour les deux premiers majeurs de la saison. Il est plus 20 sur les quatre tours. En cumulé sur les quatre tours de majeur qu'il a disputé en 2026. Et là, si on parle juste de Bryson, le golfeur, donc il envoie 76 le premier jour à Ronny Mink pour le PGA Championship, en faisant birdie au 18, donc c'était pas loin de faire 77. C'est un carnage absolu. Et moi, ce qui me dérange, c'est un obsessionnel, il est jusqu'au boutiste dans sa démarche. Je ne sais plus quand le vendredi, alors qu'il doit tout faire pour essayer de faire le cut. Tu le vois. On a souligné la semaine dernière que finalement, la clé pour gagner ce PGA, ce n'était pas de driver le plus loin possible. Ben Bryson, il n'a pas, pas d'autre version de son logiciel. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, il était à plus 5 ou plus 6 et il continue à se déchausser au départ. Et quand tu saccages la balle comme Bryson, et ben quand tu la rates d'un ou deux degrés dans la phase de club, tu prends 50, 60, 70 mètres à droite. Donc au bout d'un moment, quand en plus tu ne rates pas un putt et que tu peux pas sauver tes cartes avec le scrambling, il ne faut pas s'étonner. Donc moi, j'ai un peu peur que dans cette démarche, moi contre le système, moi contre la technologie, moi contre l'industrie du golf, j'ai mes clubs, mes shafts, mes trucs, je fais flotter mes balles dans de l'eau salée, de machin et tout, et je vais continuer à vous cirer quand je le déciderai sur les tournois qui m'intéressent. J'ai peur qu'il s'enferme dans une logique qui, vu la densité de joueurs autour de lui, lui permette plus de dominer. Et je pense que de toute façon, il n'a plus envie, même si le livre s'arrêtait et qu'on lui proposait des conditions un petit peu à la cool, plus cool qu'à d'autres pour revenir, je ne suis pas sûr qu'il accepterait de se repeler des saisons sur le PGA à l'ancienne.
Okay. C'est pour ça aussi qu'on l'aime, ce gars-là, c'est un showman, et c'est l'image qui s'est donnée aussi sur le golf, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai. Si on revient à la question de départ, est-ce qu'il est perdu pour le golf? Moi personnellement je ne pense pas qu'il soit perdu, c'est un mec physiquement... Je trouve qu'il est bien, il est présent, il est affûté. Voilà, c'est juste que je pense peut-être qu'il s'est un petit peu dispersé, qu'il a beaucoup de projets à mener et que bah, finalement, il faudrait peut-être qu'il se recentre un tout petit peu plus sur son jeu. En effet, voilà, tu vois sur son wedging, il est parfois 5-10 mètres derrière le green. Tu te demandes pourquoi à ce moment-là il sort un truc comme ça. Voilà, il est dispersé, il est là sans être là, et c'est pour moi ce qui lui manque. Il a juste besoin peut-être de recentrer les choses, de se redonner des priorités, et à mon avis il sera performant. Il a gagné l'US Open en 2024, c'était pas si longtemps que ça. Il a raté quelques cuts, ok, il rate ces deux cuts là, ok. Moi, là où je vais pouvoir répondre différemment peut-être à cette question-là, c'est si à l'US Open, il passe pas le cut et qu'il fait un tournoi merdique, là, on pourra vraiment se poser des questions, parce que ça sera...
Non mais ça,
pour moi,
ça,
c'est un parcours
les,
quand même
les copains, plus... Ça arrive des saisons sans, il n'y a pas de débat là-dessus, et ça arrive de rater deux majeurs, il en a déjà gagné deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la question qu'on se pose, et je te lance Ramucho, c'est aussi de se dire, si jamais ça s'arrête avec le livre, qu'il a les mêmes conditions que Patrick Reed, qui doit retourner sur le DP, ou qui doit... Est-ce que vous le voyez faire tout ce chemin pour revenir sur le PGA Tour?
Ça dépend de ses priorités.
Bah, moi, je le vois tout à fait revenir sur le PGA. Moi, ce qui m'inquiète, pour abonder dans le sens de Simon, c'est qu'il n'y a aucune remise en question depuis le début de sa carrière. Voilà. Donc, il a quand même un profil très particulier. Il travaille, comme tu l'as dit, Simon, avec des datas. Il travaille avec des clubs particuliers. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce type-là, il l'a prouvé, hein, c'est une F1 poussée à l'extrême. Tu vois, on a poussé au maximum les capacités de ce joueur. Et là, il est en train de faire une sortie de route. Mais pour autant, ben, on ne le voit pas. Moi, ce qui m'aurait plu, ce qui ne m'aurait pas inquiété, c'est qu'il se pose et il dit, bon, on va peut-être modifier un tout petit peu ce logiciel ultra performant que je recherche avec le matériel.
Mais pourquoi, pardon, Ramouch. Bah pourquoi que tu veux qu'il le modifie parce, après parce qu'il a raté que... deux cuts alors non, qu'il a fait pas... une année 25 de malade.
Je suis tout à fait d'accord.
Il a fait un début 26 sur
mais ce
le
qui
livre,
est gênant,
tout à fait respectable.
Dans tous les parcours de chaque joueur, il y a à un moment donné, tous les joueurs ont une petite, à degré différent, remise en question. Pour l'instant, ça n'est à mais aucun
tu,
cas.
Ok, mais tu aimerais qu'ils remettent quoi en question?
Bah, peut-être oublier un tout petit peu ces datas, où c'est vraiment là-dessus qu'ils se basent, retrouver un petit peu d'essence dans le mais golf,
pourquoi,
un petit peu de...
Ok, mais pourquoi tu dis pas ça de Fitzpatrick, qui est peut-être pire que lui dans la...
Oui, non, il a un jeu, Fitzpatrick, beaucoup, beaucoup moins exigeant. Il a un fond de jeu, un swing, une technique, on va dire, pour parler très généralement, beaucoup moins exigeante que lui. Lui, il recherche le coup, les trajectoires, le bas. Voilà, ce que je reproche à Bryson, c'est encore une fois, ce genre de joueur n'est pas assez respectueux du parcours, du jeu lui-même. Alors, lui, il veut être au-dessus du jeu.
Mais là, je te rejoins. C'est ça qui est gênant. Techniquement, c'est ultra simple ce qu'il fait, hein.
C'est toi qui le dis.
Oui. Juste quand même, c'est bien qu'on parle un peu de technique, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, mais Bryson a amené ou a continué de pousser encore plus loin ce que Tiger avait amené à la puissance au golf. C'est-à-dire que c'est un mec, et en plus qui a travaillé avec un coach que je connais bien, qui est Chris Como, et qu'il a aidé à comprendre comment on pouvait taper encore plus loin. Et donc, il a amené le fait de lever le pied gauche au backswing, de tourner plus le bas, de stretcher très haut. Donc, oui, il a amené de la modernité au jeu de golf.
Mais à 100% d'accord.
Moi, j'ai l'impression que ces deux premiers tournois, c'est un peu de la provoque. C'est un peu de la provoque. C'est de dire, j'arrive, je joue, j'en envoie partout, j'emmerde tout le monde. Et tant que c'est un peu le gosse qui n'a pas encore son jouet, tant qu'on ne m'aura pas donné mon jouet, c'est-à-dire ou YouTube, ou le livre, je vais en mettre partout, ça va m'amuser, et je vous emmerde.
Tu crois que ça l'amuse?
Oh non, parce que... oh non, non, c'est pas possible que ça l'amuse. Là. C'est un compétiteur
comédien.
Je ne
dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, ça donne, et puis de toute façon, à Augusta peut-être pas, mais le parcours, là, c'était tout sauf pour lui, quoi. C'est un parcours où tu dois mettre défaire.
Ah, Ronnie Ming, tu veux dire, le PGA, ouais.
Ouais, mais c'est ça le problème du jeu de Bryson DeChambeau au sens large du terme, c'est que c'est un jeu qui est on-off.
Exactement.
Soit si c'est tout dedans et ça fait des performances exceptionnelles.
Personne ne lui résiste.
Comme à l'US Open. Aucun parcours ne lui résiste, personne ne lui résiste, y compris les tests les plus compliqués de golf qui soient. Mm. Et comme tu dis, il est au-dessus du golf, au-dessus de la manière dont on doit jouer à l'US Open. Le premier US Open qui gagne, tu te dis, non, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et par contre, quand ça ne va pas dans son sens, que son driving il est à l'ouest complet comme il l'est, comme son contrôle des profondeurs est à l'ouest depuis un bon bout de temps, ses résultats l'an dernier, ils sont un brin masqué par ce petit souci de gestion de profondeur et cette gestion d'une balle qui vole trop. Tellement, il a tellement de vitesse, ce mec-là, il la met tellement fort,
non,
tellement haute,
que ça devient aussi, fou. Quoi. On l'a déjà dit, moi je veux bien le redire, c'est que ses têtes de club, de fer, sont construites comme des hybrides. C'est-à-dire que la balle rebondit plus
elle sort
sur
plus
la
vite,
phase de
coupe.
Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai visité en Californie l'usine Cobra. Déjà, les grips, tu as les jumbo, mais là, les jumbo, c'est les grips les plus gros, mais là, c'est encore plus gros. Et sa phase de club est faite comme un hybride. C'est-à-dire que c'est un peu creux. Il y a un rebond un peu différent. Donc c'est pour ça que de temps en temps il fait.
C'est de temps en temps souvent en fait.
Oui,
c'est ça,
mais je suis d'accord avec toi.
C'est ça qui m'embête chez ce bonhomme-là, c'est que c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes à choper de ce bonhomme-là, techniquement, dans la façon d'aborder le jeu, dans la façon de révolutionner le jeu ou autre. Mais il y a un moment où, et c'est là où je rejoins Ramucho sur le côté, il y a une sorte de remise en cause. Et je sais qu'il l'a fait cette remise en cause parce que quand il fait deuxième du PGA l'an dernier. Avec, j'ai encore en tête ce coup de fer 7 au 17 qui fly complet ou qui prend le vent, il regarde la balle, genre mais qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Bryson DeChambeau, tu le mets dans le vent, il est perdu de recherche, mais complet. tu le vois au dernier tour de The Open l'an dernier, alors qu'il était, il était à la bagarre, il finit quand même top 10, et il fait 78 je crois le dernier jour, ou 75, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il est perdu parce qu'il y a du vent, et que Bryson DeChambeau dans le vent, c'est bye bye, au revoir, dans la tempête, il s'envole malheureusement.
Ça reste un mec incontournable pour le golf mondial.
On a besoin de ce type de ce genre de
ouais,
de
mais on a besoin d'un Bryson qui soit moins on-off, on a besoin d'un Bryson qui remette un peu de vie là-dedans, un peu moins de... c'est moins robot quoi.
Non mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On lui dédie un numéro.
Ah bah bien sûr,
ça veut dire
évidemment qu'il est intéressant.
Ça veut quand même dire qu'il joue bien ou qu'il joue mal, il interroge et on a envie que ce mec-là continue à jouer. Et moi, très sincèrement, ça m'emmerderait, parce que moi, je ne regarde jamais YouTube,
C'est cool.
D'aller le voir sur YouTube.
C'est cool, il fait des trucs.
On
cool,
va faire des trucs sur YouTube, vous allez voir les mecs, nous aussi, on va...
Il fait des trucs cool. Mais c'est, moi, la question, en fait, la question que je me pose par rapport à ce début de saison et en particulier peut-être le côté, Fabien, tu disais provoque de ces résultats. Pourquoi pas, mais ça peut être une lecture intéressante de ces deux résultats-là et de ce décut manqué. Mais et ce côté un peu sale gosse qu'il a quand même, quoi. Genre, quoi, comment ça, j'ai pas mon demi-milliard de dollars, non, c'est pas normal, je veux mon jouet, donc je vais faire du YouTube. Moi, il y a une question peut-être un peu plus large qui m'interroge, c'est est-ce que ce bonhomme-là, il préfère pas être un entertainer, un gars qui divertit plutôt qu'un champion? Quel genre d'héritage il veut laisser aux
États-Unis? C'est la question qu'on se pose tous aux États-Unis. Dès que ça parle de Bryson, tu as les pour, les contre, et en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il est un carrefour. Je l'avais cité dans un numéro précédent, quand il y a eu les premières rumeurs de fermeture du livre, on lui a dit « alors vous ?» et tout. Donc, nie évidemment, discuter avec les mecs du PGA, libre à nous de le croire ou pas. Et il a dit dans une des rares interviews qu'il a données que il était toujours intéressé pour investir et développer, non pas le Live Golf, mais le Team Golf, le golf par équipe. Voilà. Donc, la précision a quand même juste son importance. En attendant, il y a quand même, si on se pose la question, Fabien, je pense que c'est parce que Martin a rappelé l'an dernier, donc c'est 3 top 10 et un cut manqué en majeur. Là, c'est 2 cuts ratés et dans des très grandes largeurs. Il s'est fait allumer là par Brian Smith dans Talksport US qui a dit « Nobody wants to live on Bryson Island ». Personne ne veut vivre sur l'île de Bryson. Il a dit « bon, c'est un peu chelou ». Alors, ça doit être une île bien équipée, je pense. Mais en effet, tu ne sais pas bien à qui... En ce moment, tu ne sais plus très bien à qui tu as à faire parce qu'entre la sérénité qu'il dégage sur les réseaux, sur le livre où il n'y a pas beaucoup d'adversité, mais il a gagné, je crois, c'est à Singapour, en Afrique du Sud, déjà cette saison. Et tu as l'impression que quand il retrouve un truc un petit peu le plancher des vaches, il est plus adapté. Quoi.
Spontanément, là, citez-moi trois mecs, spontanément, hein. Trois mecs les plus valeurs marchandes du golf mondial.
Rory, Tiger, Ram, Scotty, Rory.
Pour moi, il est devant Scotty largement. Hein. C'est Rory,
personne,
Tiger...
Mais moi, je te mets DeChambeau.
Je croyais que tu disais à part lui.
Mais tu vois, ça m'inspire ce côté un peu. Il s'est créé un personnage et il a raison de le faire parce que ce sont des personnages, ce sont leurs propres marques.
C'est lui, Martin.
Il s'est trouvé, il a fait sa chaîne YouTube et il s'éclate. Et franchement, ce qu'il fait, il y a vraiment des numéros qui sont très sympas à regarder.
Il se travestit pas du tout.
Mais je me demande si justement, il se perd pas là-dedans dans son propre personnage, tu vois, de se courir après lui-même.
Il se perd parce qu'il a raté 2 cuts en majeur. Sinon, il y a un paquet de mecs.
Il se divertit lui-même.
On disait quoi de McIlroy quand l'année dernière?
Ouais, mais il ratait pas les cuts dans les mêmes proportions que Bryson quand même.
Et c'est ça, Rory, il se divertissait entre guillemets lui-même avec ses histoires de livres, à prendre position sur le PGA Tour et
oublier
le cœur de ce qu'il fait, à savoir d'être un pro de golf, toi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée.
Alors ça, c'est sûr, il faut qu'il reste et on a très envie de le revoir au premier plan parce que c'est vrai qu'un tournoi avec un Bryson DeChambeau, ça a une autre gueule et il donne une dimension aussi au golf et on sait à quel point on a besoin de ce genre de joueur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bryson DeChambeau. Évidemment, on suivra ces prochaines semaines son évolution et on espère que ça va bien se passer pour lui lors du prochain US Open et on sera là pour en parler. Le mulligan, maintenant les amis, vous allez tous choisir un débat, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre des heures, on verra, une copie double, on verra, mais on passe dans les rangs tout de suite. Fabien Donohue, tu veux parler de quoi? Juste l'intitulé.
Pardon. Zéro gant, un gant, deux gants.
Ok, mais c'est très bien. Moi, ça m'interpelle, tu vois. Ça, c'est du teasing, ça. Mais il veut nous parler de quoi? Aaron Rye, la semaine dernière, qui a gagné avec ses deux gants, peut-être. Romain Fontaine.
Petite allusion aussi à la semaine dernière, les télémètres en compétition.
Les télémètres en compétition, très bien. Pour toi, Martin?
Moi, c'est les Mister Nobody attachants.
Ok, les mecs pas, donc pas les mecs au fond du bus.
Mais si, un peu quand même.
Un peu quand
ceux
même,
qui rêvent d'aller s'asseoir au fond du bus.
Ramucho.
Le grand chelem personnel qui, à mon avis, n'est pas encore assez mis en avant, qui est un, qui est un exploit sportif surhumain.
Tu veux pas parler des longs putters?
Je peux aussi parler des longs putters.
C'est et nul.
Schmid.
Et descend.
J'ai pensé à toi dès que j'ai vu notre ami Schmid, l'Allemand, là, la semaine dernière lors du PGA Championship. J'ai pensé à toi.
J'essaie d'ailleurs. Hein, j'ai jamais.
Je me suis dit putain, s'il gagne, oh là 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 là, on va entendre Ramucho. Simon.
Vu qu'on est tous monstrueux en prono là, cette saison, j'ai envie de demander aux copains et à toi également, quel est leur, leur prono. Qui sera le prochain premier vainqueur d'un majeur? Qui gagnera prochainement son premier majeur? Voilà.
Ok, donc qui sera le, un peu le Mister Nobody qu'on n'attendait pas, comme Aaron Rye.
Et qui va gagner okay. sa place au fond du bus.
Ok, on fait un petit tour dans les rangs. Bah, et ça m'a interpellé cette histoire de gants là. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Non, mais c'est toujours très intéressant, je trouve. Nous, on est dans l'industrie du golf. Ramucho, moi, je ne donne plus de leçons, mais à des élèves tous les jours, des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses. Il y a toujours cette question sur le gant. Mais est-ce que je dois mettre un gant? Si j'en mets un, je le mets à quelle main? Et en fait, on ne parle jamais de mettre deux gants. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais cette proposition aux gens de mettre deux gants. Et je trouve qu'après la victoire de Aaron Rye, eh bien, je trouve que ce serait intéressant de pouvoir pousser le fait d'essayer de mettre deux gants. Très souvent, on met un gant parce que historiquement, on a toujours mis le gant à la main gauche pour les droitiers et à la main droite pour les gauchers.
Historiquement, mais ça a un but.
Non, parce que quelque part, le but, oui, c'est de tenir un petit peu mieux le club. Mais on a plein d'exemples de joueurs ou de joueuses qui jouent extrêmement bien au golf et qui mettent zéro gant.
Koppels,
il y avait Victor Pérez qui ne mettait pas de gants, et il en mettait un. Alors lui, il a expliqué parce que, de temps en temps, le club lâchait. Et que, mais il n'y a rien, et Dieu sait si j'ai regardé depuis très longtemps l'histoire du golf et pourquoi ce gant est apparu et un peu à la main opposée, je n'ai jamais trouvé quelque chose de très sensé et vrai. Et avant notre ami Aaron, il y avait un autre joueur qui s'appelait Tony Gainey. Je sais pas si
Tommy vous... Two Gloves.
Tony, voilà. Mais lui,
en
l'histoire,
plus,
c'est
qu'il s'appelait.
Il jouait avec des gants de baseball, des vrais gants de baseball. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes déjà mis une fois dans votre vie un gant de baseball, mais
celui avec lesquels t'attrapes les balles, ça.
Oui. c'est ultra. Non, celui avec lesquels t'as la batte.
Blague.
Et c'est assez gros, assez et les gants que joue Aaron Rye, ils sont un peu épais. Et il y a un autre joueur, et c'est un quiz, pardon, JC. Quel est le joueur qui a gagné de multiples majeurs qui avait pour habitude, quand le temps se dégradait, de mettre deux gants?
L'un sur l'autre?
Tic-tac.
CV?
Main droite, main gauche.
Ah, main droite, main gauche, ok. Pas deux sur le même.
Wisnam. Tic-tac.
Il peut-être pas du tout.
C'est un joueur américain.
Récent?
Pas très vieux.
Bruce Koepka?
Tic-tac. Tic-tac. C'est un joueur qui est parti sur le livre. Tic-tac.
Neiman?
C'est un joueur
américain.
C'est un joueur qui a...
Gofield?
Phil?
Of course.
Mickelson?
Mickelson était le seul joueur, quand il pleuvait ou quand il faisait froid, qui mettait deux gants.
Alors, on rappelle l'histoire d'Aaron Rye.
J'ai fait long.
Quand il a commencé à jouer lors d'une partie quand il était enfant, son père oublie de mettre. Il jouait toujours avec deux gants. Son père oublie de mettre un gant, de mettre les deux. Il en a qu'un. Il fait une partie catastrophique et depuis, il s'est dit OK, en fait, moi, je dois jouer avec deux gants. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer avec deux gants?
Bien sûr.
Oui. Non. Déteste. En hiver, moi seulement.
Jamais. Je déteste.
Au ski?
Non, j'ai joué.
C'est la sensation de la main droite.
Déjà, il faut avoir un gant pour la main droite. Ouais, pour la deuxième main.
Je trouve que, voilà, mais parce que je joue au golf depuis 40 ans et que j'ai déjà essayé de jouer sans gants, catastrophe aussi. Voilà, je pense que c'est des sensations. Et quand tu relates l'histoire de Rye, c'était une histoire d'habitude, de sensation, peut-être aussi de superstition.
Alors moi, j'ai essayé les deux gants, mais parce que j'étais gaucher. Et alors, je joue droitier au golf, mais j'ai commencé à essayer gaucher. Bref, du coup, j'avais les deux gants pour les deux mains. Non, mais c'est surtout que...
Parle-nous en
ça vient de se passer.
Mais c'est surtout moi, j'avais les mains qui moites et qui glissaient. Et j'avoue que j'avais une bonne, meilleure sensation quand j'avais les deux gants. Et ça ne m'a pas forcément déplu. Après, j'avais des grippes différentes, ce qui fait que voilà. Puis la main du tube.
Donc, je veux qu'on lance la mode du Two Gloves.
J'ai joué avec deux gants également. Mais deux gants de pluie, bah parce que les conditions étaient catastrophiques. Et qu'on arrivait vraiment à peine à tenir le club. Donc, il m'a fallu deux gants, mais deux pluies, pour essayer de maintenir le club dans mes mains et avoir une balle qui sorte.
Et t'as aimé ?
Non. J'avais vraiment pas le choix. Vraiment pas le choix par rapport aux conditions météo. Parce qu'on
est des vieux golfeurs, on n'a pas l'habitude.
Mais bon, il se trouve que ça m'a aidé à tenir le club. Mais bon, c'est vrai que c'est pas du tout très, vraiment agréable.
Martin ?
Non, moi, j'ai commencé à jouer. Je jouais sans gants, mais pendant très, 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 très longtemps. J'avais des grippes cordées qui me désinguaient les mains, mais moi j'adorais ça. Je préfère. Il y a même beaucoup de situations encore aujourd'hui où sur certains chips ou sur certains coups, je sais pas, t'as besoin d'un peu
de
feeling.
Souvent les gens qui ont beaucoup de feeling, ce qui est pas mon cas. Oui. Non, mais c'est vrai. En toute sincérité, ce qui est pas du tout mon cas. Qui ont pas du tout un bon petit jeu et ce qui est encore moins mon cas. Préfère jouer sans gants pour sentir mieux le club et. Donc, c'est plus une histoire de sensation.
Ouais, c'est du feeling, ouais. Complet.
Ok. Pourquoi t'en as mis un, finalement ?
Parce que, en fait, c'était cool quand on me les donnait, je ne les payais plus. Okay. C'était surtout ça. Non, je ne sais plus, franchement.
Et pourquoi on retire les gants quand on veut péter ? Pourquoi on retire les gants quand on veut péter ?
C'est une histoire de sensation. Voilà, moi, c'est vrai, je le retire parce que je ne me vois pas du tout. Je sens qu'il y a quelque chose en trop entre le grip de mon putter.
Moi, ça me fait délirer.
C'est vraiment une question d'habitude, quoi.
C'est surtout quand tu as des grips de putter énormes. Hein, tu as l'impression d'avoir des espèces de moufles et que tu enlèves ton gant. Tu te dis, mais pourquoi tu enlèves le gant ? Ça sert à quoi ?
Mais le pire, c'est que je n'ai pas trouvé l'essence même. J'ai cherché.
Ce serait un très bon sujet, ça.
Peut-être mal cherché, mais j'ai pourtant cherché.
D'où vient le gant ?
J'ai pas cherché avant l'émission, j'ai cherché depuis longtemps. Alors, t'as des trucs, mais rien de très tangible.
Je vais aller chercher. Okay. Ça m'intéresse. Bah,
c'est très intéressant, en tout cas, de nous parler des gants, et notamment après la victoire d'Aaron Rai. Tiens, on passe des gants au télémètre en compétition.
La semaine dernière.
En plus, évidemment, Romain de chez Garmin. Donc,
ouais, en plus, tu sais
de quoi c'est
formation professionnelle. Non, mais parce que la semaine dernière, il y avait la PGA et le PGA Championship. Et du coup, on a vu, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais on a vu quelques joueurs avec le télémètre pendant.
Depuis 10 ans autorisé.
Voilà, exactement. Mais je trouve que je le voyais. Moi, je l'ai quasiment jamais vu, sauf sur les parties d'entraînement. Et là, on les a vus un petit peu. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de le mettre en lumière. Après, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi il l'utilise vraiment et comment il l'utilise finalement sur le parcours. Parce que c'est tellement rapide, on sait pas. Donc, ça, c'est une question que.
Moi, je vais te dire pourquoi.
Ouais, je serais curieux parce que pour moi, c'est plus. Ils connaissent le parcours, ils l'ont repéré, ils ont pas forcément besoin de tout ça. Et donc. Est-ce que c'est vraiment pour aller plus vite sur la prise de décision ? Est-ce que c'est pour se retirer une petite pression comme ça que tu as ? Hop, tu confirmes la.
C'est le joueur qui l'utilise ou c'est le caddie ?
Les deux peuvent. Toi qui connais bien l'appareil,
ouais.
Quand tu prends le télémètre, c'est une loupe. Et donc en fait, quand tu t'interroges un peu sur le placement d'un bunker, du drapeau par rapport au bunker, quand tu prends ton télémètre et ça zoome tellement. Que tu vois beaucoup mieux que quand tu es à 120, 130 mètres.
Donc, ce n'est pas forcément pour la distance.
Moi, je les soupçonne. En tout cas, moi, je le fais. Donc, et Dieu sait si je ne suis pas à leur niveau. Moi, je le fais. J'utilise.
Pour le slope, pour l'avant-green aussi.
Moi, je suis le seul mec qui a déjà laissé deux télémètres sur la voiture.
Sur la voiture. J'en ai laissé un aussi à Cissé-Blossac.
Donc, là, j'ai décidé d'arrêter les télémètres. Mais moi, je prenais mon télémètre, oui, pour la distance, mais surtout. Pour voir la profondeur du drapeau, pour voir les éléments autour du green.
Ah, tu vois, c'est intéressant.
Ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs très autorisé par les règles de golf. Hein. Mais à coup de pas.
Je fais un petit pas de côté, mais moi, ça me fait penser à ce qu'on a vu passer sur un des comptes là, des diffuseurs du PGA Championship. C'est une petite séquence entre Akshay Bhatia qui joue une partie d'entraînement avec Brooks Koepka. Et il dit tout d'un coup, Bhatia dit à son caddie, il a pas de carnet de parcours. Ça lui dit non, il a pas de carnet de parcours. Bhatia, il en revient pas. Il dit mais c'est complètement fou. Et il se le répète plusieurs fois. Il a pas de carnet de parcours. Et derrière, t'as l'interview de Koepka qui avec son caddie
Et son caddie lui dit, bah non, il n'a pas de carnet de parcours. Et très souvent, de toute façon, avant même que je lui donne des indications sur la distance, il a déjà attrapé le club dans le sac et il a déjà le club à la main. Et Koepka confirme en disant, bah ouais, moi, je vois la distance. En fait, il y a une sorte de...
C'est du feeling.
Voilà, par rapport à la perception visuelle que j'ai, je sais quel club je dois jouer. Je n'ai pas besoin qu'on me donne le yardage.
Pour tous ceux qui veulent s'équiper d'un télémètre, juste, ça va de quel prix à quel prix?
Tu as tous les prix de 200 à 600, 700 euros. Donc, c'est très varié.
Qu'est-ce qu'il fait, celui
t'en as un très basique.
La vaisselle.
La vaisselle. Non, t'en as un très basique qui donne la distance aux obstacles. Donc, ça pas de souci, qu'on connaît tous. Après, non, celui qui est un peu plus haut de gamme, t'as un GPS intégré avec le carnet de parcours qui est directement intégré dans la visée. Donc, là, t'as la visualisation de tous les obstacles avec la distance, par exemple, du bunker, savoir s'il est à portée ou pas de drive et surtout savoir la sortie du bunker pour savoir s'il est en jeu et la stratégie de jeu, tout ça, machin, c'est pas mal.
Okay.
Et les slopes ? Alors, tu peux les avoir, mais tu as aussi une fonction qui te permet de tout enlever pour être compliance. Donc, tu peux les utiliser en compétition. Donc, ça, c'est très important. Et d'ailleurs, sur le PGA...
Non, mais regarde
ça,
pas Simon, on fait jamais
de compétition. Ils doivent, bien évidemment, mettre cette petite option en route. Sinon, bien évidemment, c'est pas autorisé.
Ok, c'est pas autorisé en compétition d'avoir tout
le
cartographié.
Dénivelé, tout ça, non, tu peux pas l'avoir. Mais il y a une fonction qui te permet justement d'être...
De la retirer.
Exactement.
Ok. Ouais, d'être en route. Martin, tu voulais nous parler ?
Ouais, moi je voudrais rendre hommage à un type de joueur, les fameux Mr. Nobody. Tu sais, c'est les joueurs qui n'ont pas le profil type attendu des grands winners. C'est pas les bombardiers, c'est pas les superstars, c'est pas les goinfreurs en Scheffler. C'est pas forcément des youtubeurs brisonesques, tu vois. C'est vraiment ceux qui me rappellent et qui nous rappellent que le golf, bah ouais, c'est aussi dur, c'est aussi âpre. Mais ceci vraiment cool quand ça marche bien. Tu vois, je pense au JJ Spawn, je pense évidemment à Ron Rye en lien avec sa victoire au dernier PGA, mais je pense aussi à des profils qu'on a vus s'illustrer pendant ce dernier PGA, comme Matty Schmidt ou Alex Molly, qui voient eux de temps en temps, tu sais, la porte de la boîte de nuit privée s'entrouvrir et qui ont le courage non seulement d'y entrer et d'aller alors, au fond du bus ou au fond du train pour Ron Rye, c'est rigolo.
Excellent.
Et de faire genre qu'ils peuvent
il
acheter.
Il a sorti.
J'ai fait tout ce que je pouvais pas la sortir, j'ai réussi à la sortir, c'est mon bingo personnel. Et en gros, ces joueurs-là, non seulement ils ont le courage d'entrer dans la boîte, mais en plus ils font genre qu'ils peuvent acheter une bouteille, tu vois, et tout faire péter. Et quelque part, moi en fait, ça me fait vachement de bien de voir, blague à part, de voir d'autres profils, d'autres styles de jeu, d'autres histoires à raconter, d'autres intensités, se montrer dans ce genre de tournoi-là, dans ce genre de très grands rendez-vous, et même de les gagner. Parce que ça fait du bien aussi de se souvenir qu'à partir du moment où tu as ta place dans un tournoi majeur, bah que tu peux aussi avoir ta chance de le gagner. Et donc, quelque part, de briller au fond du bus ou au fond du train. Ça dépend comment tu vois les trucs.
Ok, je reprends tout de suite la main pour lancer Simon, parce que justement, il voulait nous demander un pronostic sur quel serait le prochain nobody qui n'a jamais remporté de
match. Alors, pas forcément un nobody, parce que je te trouve un peu dur avec JJ Spawn, Aaron Rye, qui, je trouve, peuvent avoir des petites aspérités auxquelles on peut... auquel on peut s'identifier, parce que bon, moi, les Bosler, Smalley, Bridgman, JT Poston et tout, moi, c'est tout ce que j'appelle que. Tout ce que le.
Joyman.
Tout ce que
le golf américain te produit en série de mecs qui n'ont aucun charisme, exactement, qui peuvent jouer le feu, mais auquel.
Pourquoi tu parles de Scotty là?
Auquel tu ne peux pas t'identifier. Bah écoute, quand ils auront planté autant que Scotty, l'un de ces mecs-là, on rediscutera. Non, mais oui, alors.
Moi, j'y flitte.
Qui sera le prochain joueur à remporter son premier majeur. C'est vrai que en plus je sais qu'aux États-Unis, alors moi je suis pas assez spécialiste pour, je connais pas les parcours, mais j'ai entendu plusieurs confrères dire que le parcours de l'US, la Shinnecock, conviendrait bien à Tommy Fleetwood, en effet,
il a fait deuxième en 2018,
et ben, si The Open va se jouer chez lui, donc a priori voilà, donc en effet Fleetwood pour toi,
moi
ouais, je pensais aussi à Ludwig. Ouais.
Surtout en ce moment, je le vois bien. Moi.
Non, vous ne l'avez pas du tout.
Oula.
Vous ne l'avez pas du tout. C'est Batia.
HK ?
Ouais.
Jean-Christophe Batia. Ou Akshé Drouet.
Akshé Drouet, c'est bon.
Exactement. Et pour toi, Ramouch ?
Ah bah, Auberg, mais je suis un précurseur. J'étais le premier à le mettre.
Ce ne sera pas Hovland ? Il vient quoi d'ailleurs ?
Il
vient
dans le dur, là. Il est un peu dans le dur, en somme.
Et Russell Henley non plus, non ?
Il a une fiancée, il profite. Laissez-le.
On parle pas de Mbappé, là. On parle
mais
de
Mbappé aussi, putain. Mais vous voulez... si, j'aimerais bien qu'on fasse
non,
un
non,
point
non,
sur
Mbappé. Non, on va pas faire de point sur Mbappé. Même si je suis sûr que tu aurais plein de choses à nous dire.
Eh ben moi, je vais mettre un
j'ai bien aimé quand t'as flippé comme
Chris
ça.
Et toi, tu mets qui, toi?
Chris Götterup.
Ça m'étonne pas, ça, Götterup.
Ouais, je l'aime bien. Pourquoi pas? Je l'aime bien.
Vraiment,
je
un nom de mauvaise boisson
lui,
américaine.
Il serait super dans ma boîte.
Pourquoi tu t'identifies à Götterup?
Bah, j'aime ça. Pardon. J'allais dire, j'aime sa créativité club en main, mais je savais que j'allais me faire roaster. Non, mais parce que je me suis déjà fait reprendre ici parce que c'est Mister Nobody, il a le physique de l'américain moyen, il est comme moi, il est trop gras, trop gros, il est parfois capable de taper d'excellents coups. Je l'aime beaucoup.
Un peu plus que ça quand même. Hein.
Mais non, c'est un super joueur et ouais, sous des airs de banalité, je trouve que c'est un sacré joueur de golf, très créatif et j'aimerais bien, ouais. Le voir gagner un premier grand chelem et venir virer un Patrick Cantlay ou quelqu'un comme ça du fond du bus, justement.
Ok, bah, en tout cas, ça tourne.
Il est un peu caillé. Hein.
On pourra rejouer cette séquence quand ça arrivera. Ton mulligan pour toi, Ramucho.
Alors, comme nous sommes en période de majeur,
élection électorale.
La semaine dernière, il y avait l'USPJ et dans un petit mois, on a l'US Open. Je voulais mettre un petit coup de projecteur sur des joueurs qui sont très 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 connus, mais qui ont quand même commis un exploit sportif au-delà de l'entendement, c'est le grand chelem personnel. Alors, ils sont 6 chez les messieurs et 7 chez les dames. Je ne veux pas les nommer, hein. Il y a Rory.
Non, parce que les dames, je suis sûr que tu te souviens.
Non, mais elles sont 7 déjà. Il y a évidemment 7 dames, donc il y a une de plus que les messieurs. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que c'est... C'est exceptionnel parce que ces joueurs-là gagnent sur des terrains de golf totalement différents, avec un environnement totalement différent, etc. Donc, remporter les quatre grands chelems sur des parcours différents n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas quelqu'un qui a dominé juste une période, c'est quelqu'un qui a une capacité à s'adapter à tous les tests de golf que propose un grand chelem. Voilà, donc... On les distingue du numéro 1 de la FedEx, du numéro 1 mondial. Ce sont, comme vous le dites, des goats, mais vraiment à 2000%. Et juste pour finir, qui est-ce qui est encore en capacité de faire un grand chelem perso? On a Scottie Scheffler, on verra le mois prochain. Il manque l'US Open.
Jordan.
Il y avait Mickelson. Bon, je pense qu'il y a l'US Open, je pense qu'il va courir.
Il a gagné tard. Hein.
Ouais, ouais. Et il reste, malgré tout, Jordan Spieth, à qui il manque un USPJ. Bon, cette année, c'est fichu.
On oublie un, à mon sens.
Pour 2027. Bah,
on oublie un.
Ah. Lequel?
John Rahm. Il a pas trop, il en a pas trois, mais il a
ah oui non. Ah oui, bah sur l'heure, tu rajoutes Xander.
Non.
Et la vraie
il
question,
en manque deux.
Il parle de ceux qui en ont trois sur quatre.
La vraie question, c'est de savoir où il s'assoit, où eux, parce que lui, eux, c'est pas un train, c'est plutôt une limousine, non?
On parle de qui là? De
les mecs qui ont le grand.
Jordan Spieth font du bus.
Non, Nicklaus, Tiger, ah, Player.
Ils ont la limo, ils sont
dans
la
Benoga. Le chien perso, mais c'est extraordinaire.
Prenez le moyen de locomotion que vous voulez, mais là, on va avancer dans ce podcast, car nous sommes à mi-saison et je veux savoir, parce qu'on fait les balances ton golfeur, on distribue les bons et les mauvais points, je voudrais savoir qui connaît le mieux le golf depuis le début de la saison. Ce serait pas le maillon faible, ça? Si, c'est la musique du maillon faible, si. Ok. Ouais.
Bah, c'est très bien. Vous êtes complètement nuls.
Mais c'est à la rapidité.
Correct. Non, pas du tout. Pas sûr. Pas tout le temps à la rapidité. Parfois, je passe dans les rangs. La première question, c'est une question de rapidité. On joue sur la première partie de saison, évidemment. Scottie Scheffler est le joueur qui réalise en moyenne le plus de birdies par tour, avec 4,88 birdies par tour. Mais qui est le deuxième?
Knapp.
Non.
Rory McIlroy.
Non.
HK Batia.
Non.
Young. Cameron.
Non. Rory McIlroy est quatrième.
Le plus de...
Batia est troisième.
Ah bah Matt
Götterup.
Non.
Fitzpatrick. Je viens de le dire, ouais.
Non. Il n'est pas américain. Ouais. Ludwig Oberg, je l'ai entendu. 4,65, c'est une bonne réponse.
Putain.
Un point pour Simon Dutin.
3 et 4.
Là, ce n'est pas une question de rapidité. Je passe dans les rangs parce que je vous ai demandé la moyenne de birdie par tour. À quelle place est notre Français Mathieu Pavon depuis le début de la saison?
Il en fait pas mal.
À quelle place est Mathieu Pavon? Je vous donne juste une indication, il fait 3,72 birdie par tour. À quelle place il est?
27.
27e.
17e.
17e.
C'est plus loin. 20e.
Plus loin. 20e. 31e.
36e.
C'est de la stratégie certainement, mais plus près, et pourtant vous êtes très loin, il est 99e. Avec 3,72 birdies par tour. C'est quand même.
C'était maillon faible, mais c'est comme au juste prix, on est d'accord, hein, c'est le plus proche.
Ah bon, le moins loin. Proche, bon. C'est le plus proche. C'est donc pour toi 2 points pour Simon. Quel est le joueur, pas facile, qui a disputé le plus grand nombre de trous sans prendre 3 putts?
Je sais.
Série en cours. Il en est à 189 trous.
Russell Henley.
Adam Scott.
Non.
Non.
Oh. Il n'est pas américain.
Non, non, je l'ai.
Cameron Smith. Non, je déconne.
Non.
Il faut aider, là.
Il n'est pas américain, il n'est pas européen.
Ouais, c'est un Sudaf.
Jason Day.
Qui m'a dit
Jason Day.
Kim.
Non, Kim.
Qui m'a dit Kim? C'est une bonne réponse. Siou Kim.
Siou Kim.
C'est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour notre ami Romain. 4e question. Il y en a 8.
On est nul, Ramoutien.
On m'en parle pas.
C'est à la rapidité. Quel est le joueur qui a gagné le plus de prize money depuis le début de l'année?
Scottie Scheffler.
Non.
Young.
Non.
Cameron Young, évidemment.
Oui, bien sûr.
Quasiment
deux signatures.
12 millions de dollars.
Il doit pas être loin.
12 millions de dollars. Matt Fitzpatrick, pardonnez-moi. 11 millions de dollars est deuxième. Scottie Scheffler est troisième. Rory McIlroy est quatrième. Et il y a Bridgman. Et Gotterup, il est.
Loin.
Il est huitième du classement. Avec 5 millions. Un peu plus de 5 millions. Bon. Ok, ça fait 2 points pour Romain, 2 points pour Simon. Le jeu a commencé pour tous les autres. Quel est le joueur le plus performant sur les par 5?
Jack Knapp.
Depuis le début de l'année, avec 4,29. Knapp. Jack Knapp est une bonne réponse de Fabien Denoyer.
La mer noire.
C'est beau,
Jack Knapp.
Jack Knapp. La mer noire.
Pourquoi tu sors Jack Knapp comme
parce
ça
qu'il parce est, que... il est... Vas-y, pardon, excuse-moi.
Parce que ça a été dit la semaine dernière lors du tournoi signature, je ne sais plus sur quel tour.
Mais de toute façon, il est en tête. Enfin, il est en tête. Il est, je crois qu'au scoring, il est deuxième ou quelque chose comme ça. Il est vraiment bien classé.
C'est là. Plus difficile.
La mer noire.
Quel est le joueur à la rapidité? Quel est le
Stéphanie
joueur le plus performant sur les par 3?
Fitzpatrick.
Depuis le début de l'année, c'est pas Fitzpatrick.
Damn.
Avec 2,90.
La mer
Shane
noire.
Lurie.
C'est pas Shane Lurie. C'est un joueur moins connu que ça. C'est un américain.
Jean-Christophe Drouet.
Boesler.
Mollet. Non.
Non. Ses initiales sont BS.
Brent Snedeker.
Brent Snedeker. Bonne réponse de Simon Dutin, 2,90.
Brent Snedeker qui a gagné un tournoi, j'ai vu ça.
Ouais.
C'est incroyable.
Internet. Non, mais attends, je ne comprends pas Brent Snedeker. Mais il a fait 3 tournois dans l'année.
Ah non, c'est pour ça.
Il en a fait plus.
Ah non, il joue souvent.
Il joue.
Il y a 15 jours, il a gagné.
Toi, quel champion. J'aimerais vérifier le nombre de tournois joués en 2026 par Brent Snedeker.
Je sais pas si j'ai le temps de trouver ça, mais...
Ok, en tout cas, on conteste le point, j'ai l'impression. 7e question. Quel est le joueur qui a le plus gros taux de réussite au putting à moins de 3 mètres avec 91,10% de réussite?
Ryan Harman.
Ricky Fowler.
Non.
On l'a déjà cité ou pas?
Non, vous ne l'avez pas cité, ce n'est pas un joueur américain.
Matt Avery.
Non, c'est non, un pas, joueur européen.
Matt Wallace.
Rory McIlroy.
Non.
Harry Hall.
Non. Joueur européen. Qui a fait la Ryder Cup.
Ah. Ovland?
Oberg.
Non.
Shane Lurie.
Non.
Tommy.
Non.
Ah,
on va tous les faire.
Rory.
Non.
C'est sur le PGA Tour.
Sur le PGA Tour.
Un européen.
Straka.
Non.
Putain, j'y arrive même plus à me souvenir dans l'équipe.
Là, je vous donne plus d'indices.
Est-ce qu'il vient de gagner la PGA?
Non.
Alors, il n'a pas fait la Ryder Cup.
Il n'a pas dit
la mer noire.
Stéphanie de Monaco.
Sean Norrie.
Non. C'est plutôt du nord de l'Europe.
Berberg.
Victor.
Les frères.
Højgaard.
Nicolas Højgaard. Bonne réponse. Bonne réponse.
Point partagé.
Ça fait 2 points. Il reste combien de questions?
2 points pour Fabien. 1 point pour Romain.
Non, j'en ai deux.
Deux points pour Romain. 3 points pour Simon. Mais sachez que cette question
compte double,
compte triple. On peut gagner
à Mouche. 4 points.
Ouais.
4 points pour cette question. Donc celui qui répond,
c'est parti. Vas-y.
Va remporter.
C'est la mer
noire. Défi à mi-saison.
La question est dure ou pas?
Non, parce que je vais passer dans les rangs.
Bah pion quand même.
Je voudrais limite un tout pile. Le premier au classement du driving est Aldrit.
Podgitter.
C'est
bon, j'ai gagné 4 points.
Mais combien de yards en moyenne réalise-t-il? Qui veut commencer?
342.
Non, 339 yards.
339 yards.
Moi, je dis 300,
c'est noté.
342.
342, c'est noté.
347.
347.
Et le juste prix.
Simon,
et
pour
339.
3, attends, j'ai déjà 339, c'est déjà donné.
39, t'as dit?
Ouais. J'ai 339. 342, 347.
340.
340. Oh là 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 là, c'est très serré.
348.
348.
Personne n'a joué en dessous, il fallait jouer en dessous. Bah, 348, c'est énorme.
Moi, c'était 323 avec Rory. Mais...
T'as dit 339?
Ouais.
Et après, j'ai dû 340, 342, 347, 348.
Pour moi, c'était 323.
Podgitter. Sachez que le deuxième de ce classement n'est autre que...
Rory.
Rory McIlroy.
Il est à 323.
Exactement.
Eh ouais, mais du coup, c'est pour ça que je suis perdu. Mais ça me
328
énorme.
Yards, oh, virgule 4. C'est une bonne réponse de Fabien
Dorian.
Bravo, les amis. Bravo.
Et moi, j'ai trouvé 5 départs sur le PGA Brand Snedeker.
Évidemment, juste Martin et Ramucho, vous pouviez jouer à ce jeu.
J'attendais la mer noire. Pour ça
merci les copains d'avoir été avec nous. On se retrouve le 8 juin pour débriefer notamment le Memorial Tournament. On vous embrasse et d'ici là, bon golf à tous.
Adios,
à bientôt.
Le practice RMC.